Strasbourg pilote, arts et lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Agnès Sandras, bonjour.
Bonjour, Solange Chana.
Vous venez de faire paraître aux éditions Perrin un livre éblouissant par son iconographie, par ses textes, un gros livre passionnant dont le titre est « Victor Hugo, le forçat des lettres ». Alors, c'est la première biographie illustrée d'un monument des lettres. Vous êtes agrégé, docteur en histoire contemporaine et conservatrice. Vous avez aussi accès à un fonds d'iconographie exceptionnel. Par quel biais ?
Alors, effectivement, je suis conservatrice des bibliothèques. J'ai été pendant 10 ans, j'ai eu la chance d'être conservatrice à la Bibliothèque nationale de France. Et effectivement, de pouvoir consulter toutes les différentes collections, qu'elles soient iconographiques, manuscrits, etc., consacrées à Victor Hugo, qui est fonds exceptionnel à la Bibliothèque nationale de France.
Ça vous a pris déjà combien d'années à le faire ?
Alors, j'ai pris 2 ans pour écrire ce livre, vous en doutez, parce que je voulais faire le tour de tout Victor Hugo, on va en parler. C'est très difficile de faire le tour de Victor Hugo. Donc, ça m'a pris 2 années. Alors, l'idée, comment est-elle venue ? Elle est venue au directeur de collection. C'est une superbe collection qui s'appelle Les Illustres, qui est une coopération entre les éditions Perrin et la Bibliothèque nationale de France, et qui consiste à trouver un corpus d'illustrations vraiment formidable et alterner à la fois texte et images, photographie de manuscrits, etc. pour illustrer. Et c'est le premier, en effet, dédié à un écrivain. Donc jusqu'ici, la Bibliothèque des Illustres s'était consacrée à des hommes politiques comme Robespierre, Mazarin, Napoléon Ier, Napoléon III. Et c'est le premier écrivain qui, lui aussi, est un homme politique.
C'est un génie qui a bouleversé l'histoire et la littérature. L'œuvre est éclectique, passionnante, jaillissante, visionnaire. Il y a des dessins, il y a des poèmes, il y a du théâtre. C'est un homme océan. Qui est-ce qui a dit ça ?
Alors l'homme océan, c'est lui-même qui parlait d'océan à propos de tout le legs qu'il allait laisser justement de papier. C'est une expression qui a été reprise ensuite dans divers ouvrages. On parle aussi d'homme siècle. Alors là, c'est Michel Vinocq qui a employé l'expression homme siècle, qui lui a consacré un ouvrage parce que à la fois l'homme embrasse tout son siècle et en effet, c'est un homme océan puisque il est inspiré par l'océan qu'il a découvert avec sa maîtresse Juliette Drouet. Et c'est un océan dont il n'arrive pas visiblement à trouver le terme, puisqu'il sait très bien qu'il ne pourra jamais, jamais écrire tout ce qu'il désirait rédiger.
Alors, vous avez décidé, vous avez souhaité montrer tout le panel. Il y avait quand même un cercle à 360 degrés à tracer, puisque lorsqu'il est né, il est né en 1802, donc le siècle avait 2 ans, et lorsqu'il est mort, en 1885, le siècle était finissant. Victor Hugo a été le visage même de son siècle.
Oui, alors c'est ce qui est très intéressant quand on travaille sur Victor Hugo, c'est quelqu'un qui a vécu très vieux pour son époque, puisqu'il est mort à plus de 83 ans, et c'est lui-même qui s'est en quelque sorte intronisé homme siècle, puisque très jeune, il écrit un poème que vous venez de citer, ce siècle avait 2 ans, en saluant donc sa naissance, et il va vivre tous les événements du 19e siècle, ou presque, il va vivre la succession des différents régimes politiques, ce 19e siècle. siècle absolument bouillonnant. Donc il va tout vivre, la monarchie, l'Empire, des périodes révolutionnaires et enfin l'installation de la Troisième République à laquelle il tient beaucoup. Et il va vivre aussi les différents engagements des uns et des autres. On pourrait citer un autre poème, la fin du poème que vous venez de donner, quand il dit « Je suis fidèle enfin au sang qu'on versait dans ma veine, mon père, vieux soldat, ma mère vendéenne. » Et ça veut tout dire, hein, c'est-à-dire que Hugo embrasse aussi toutes les crispations du siècle entre les républicains, les royalistes, les bonapartistes. Et enfin, il est homme siècle, puisque c'est lui qui est panthéonisé en 1885, c'est pour lui qu'on va, juste après sa mort, c'est pour lui qu'on va désaffecter le Panthéon, et on va faire un choix très symbolique, puisqu'on choisit pour cet homme qui est panthéonisé en 1885 et qui va incarner vraiment la Troisième République, un homme qui est à la fois, comme on le disait tout à l'heure, un homme de lettres et un homme politique.
Alors Victor Hugo est fait des événements saillants de son siècle, politique, art, combats sociétaux, et son siècle a été habité et immortalisé, ouvragé sensiblement par Victor Hugo. Il a eu une influence majeure sur tous les domaines.
Tout à fait. Alors, il veut être de tous les domaines. Il se bat pour ça. Il va être dans l'engagement politique. Il va avoir différents mandats. Il est pair de France, par exemple, dans sa jeunesse, vers ses 40 ans. Il est sénateur dans sa vieillesse. On lui prête l'ambition, et c'est sans doute vrai, d'avoir désiré être président de la République, ce qu'il n'a pas été, sans grand regret sans doute. Et puis, il va rêver d'en modifier le cours. Il s'engage dans des combats politiques. Il essaie d'écrire de modifier les lois. Il rêve de justice, il bataille pour qu'on amnistie les communards. Il est vraiment partout, et il est partout aussi dans la littérature. Je pense qu'on va en reparler. Ah oui. Puisque c'est lui qui révolutionne non seulement la poésie, mais aussi le théâtre, mais aussi le roman. Voilà.
Alors justement, à ce propos, Agnès Sandras, quels furent les écrivains, les hommes politiques, les artistes qui l'ont inspiré, et en retour, qu'il a influencé lui? Que doit-il et à qui?
Alors, on évoque souvent Chateaubriand. On évoque cette notation, hein, être Chateaubriand ou rien. Donc, Chateaubriand l'aurait énormément inspiré. Pourquoi? Parce que Chateaubriand, c'est lui-même à la fois un homme d'une double carrière, la carrière politique et puis la carrière littéraire. Mais par ailleurs, il faut savoir que Hugo, c'est un lecteur éponge. Hein. Il va lire pêle-mêle la poésie, le théâtre, les romans. Il va s'en inspirer. Il va s'en inspirer parfois pour mieux casser les codes classiques. Et par exemple, pour le roman, pour Notre-Dame, c'est un lecteur, lui, des romans historiques anglais, et il va s'inspirer notamment de Walter Scott, par exemple. Donc voilà, il emprunte non seulement aux écrivains français, mais il va emprunter également aux écrivains anglais. Alors il faut souligner, moi, dans son entourage, il y a un personnage que j'aime beaucoup, parce qu'il est bibliothécaire, d'une part, et parce que d'autre part, c'est un homme de lettres très intéressant. Il s'appelle Charles Nodier. Et Charles Nodier va emmener Victor Hugo, c'est son aîné, donc il va jouer un peu le rôle de père, il va l'emmener en voyage à Reims par exemple, dans les Alpes. Sur le chemin, ils vont aller rendre visite à Lamartine. Et Nodier va lui apprendre à regarder l'architecture gothique, à goûter les légendes, à aimer la nature, que Hugo aimait déjà, mais encore plus. Donc je pense que vraiment, Charles Nodier est très important dans sa formation. Alors après, Hugo, il a plein de soutien, évidemment. Il a des amis, le fameux Cénacle romantique. Il a de véritables disciples avec deux hommes qui sont très très importants, justement dans le legs de ses œuvres, qui sont Paul Meurice et Charles Vacry, donc deux hommes plus jeunes. Et puis il a des amis qu'on connaît très bien, comme Théophile Gautier, qui sera vraiment dans la bataille d'Hernani, ou Alexandre Dumas.
Qu'est-ce qui explique cet état, cette passion de devenir? Quelles furent les figures qui l'ont galvanisé, qui ont distillé en lui cette énergie, cette envie, cette convoitise, qui l'ont propulsé dans l'œuvre, la création, fait de lui un bâtisseur tout azimut? Alors, peut-être quelques références à son enfance.
Oui, alors je pense que c'est un enfant qui a failli mourir à la naissance, qui est le troisième d'une fratrie, qui essaie de trouver sa route entre deux parents qui se déchirent. Donc je pense que l'écriture, elle répond à un besoin d'exister. Il a un père qui va écrire beaucoup à sa retraite, et une mère qui lit énormément. Donc je pense que très tôt, il a été fasciné par cette activité peut-être qui occupait ses parents et les calmait, hein, l'écriture, la lecture. Et puis c'est un enfant hyperactif, curieux, passionné, que son entourage a du mal à canaliser. Donc sa mère lui laisse... Enfin, un enfant sage, hein, mais à qui il faut trouver des occupations. Donc très tôt, leur mère est permissive, au grand étonnement, évidemment, d'un entourage, parce que ça ne se faisait pas à l'époque. La mère laisse les enfants lire, choisir les livres et lire ce qu'ils veulent.
Alors, ses parents, Léopold Hugo et Sophie Trébuchet, finalement, on lui a donné la possibilité, comme vous l'avez dit, d'avoir des livres. Et il y a eu aussi la langue de l'espagnol. Il y a eu ce travail acharné. Il paraît que lorsqu'il était en études, à l'école, il traduisait des livres en latin. Donc, c'est un travail, c'est un bosseur, passionné, comme vous l'avez dit, de livres. Et la langue de l'espagnol, pourquoi ?
La langue de l'espagnol, tout simplement parce qu'au cours des pérégrinations de ses parents, justement, et au cours des disputes de ses parents, le petit Victor se retrouve enfermé avec ses frères dans un collège espagnol, puisque leur père a suivi Joseph Bonaparte en Espagne. Donc il se retrouve enfermé dans un collège espagnol, et il comprend bien qu'il n'a pas d'autre choix, là aussi, pour tuer le temps, que de lire, d'écouter l'espagnol, et de travailler aussi, parce qu'il sait que c'est le travail qui peut-être va attendrir leur père et permettre un petit peu plus permissivité et de retrouver sa maman.
Et son prénom, Victor, prémonitoire du sens de la victoire, c'était celui de son parrain, le général d'Empire Victor de la Horry, une liaison de sa mère. Et serait-ce possible qu'il ait été à l'origine de ce prénom que Victor Hugo a ?
Alors, qu'il soit à l'origine du prénom, c'est certain, puisqu'on donne le prénom du parrain. Et d'ailleurs, la maman espérait une petite Victorine. Hein, donc, ce qui avait été validé, c'était une petite Victorine. En fait, Victor n'a pas été baptisé, hein, dans les troubles napoléoniens, les guerres. Ça n'a pas été possible. Victor de la Horry n'est pas venu pour ce baptême. Mais en tout cas, il avait ce parrain symbolique, hein, qui était Victor de la Horry. Est-ce qu'il est le fils de Victor de la Horry, c'est une autre question. Certains biographes pensent que oui, d'autres non. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le général Bonaparte, son père, hein, Léopold, a toujours tenté de le rassurer en lui disant qu'il était bien son fils. Donc, en tout cas, Léopold était persuadé d'être le père de ce fils, et Victor Hugo a tout fait aussi, même quand il a découvert tardivement d'ailleurs que sa mère avait été la maîtresse de la Horry, Victor Hugo a tout fait là aussi pour brouiller les pistes et pour bien garder la paternité de Léopold.
Alors, ces enfants, les enfants de Victor Hugo, ont un destin tragique, malheureux. Par exemple, le petit bébé, le premier Léopold bébé, est mort au bout de quelques mois. Quant à Léopoldine, elle est morte aussi noyée à l'âge de 19 ans. Il y a Adèle qui, elle, a vécu longtemps, qui a été âgée lorsqu'elle est décédée. Elle a survécu même à son père, mais son état mental, très tôt défaillant, lui a valu d'être internée en fin de vie au moins.
Oui, tout à fait. Alors c'est vraiment un énorme drame que cette vie de Victor Hugo. Il perd tous ses enfants. Alors il les perd évidemment. On a Léopoldine, on connaît très bien la mort tragique de Léopoldine qui se noie alors qu'elle est jeune mariée dans la Seine à côté de Villequier. Et le superbe poème que Victor Hugo lui a dédié, hein, « Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne ». Mais il y a aussi la mort de Charles qui est tout aussi épouvantable, puisque Charles meurt en 1871 à Bordeaux, où Victor Hugo se trouvait avec le gouvernement. Victor Hugo était revenu d'exil et se trouvait donc avec l'Assemblée à Bordeaux. Et là, Charles meurt subitement, à un moment clé pour Victor Hugo, à un moment où il vient démissionner parce que l'Assemblée ne supportait plus Garibaldi. Et puis, vous avez et François Victor qui meurent 2 ans après. Donc c'est vraiment une succession de deuils pour Victor Hugo. François Victor, lui, meurt de la tuberculose. Alors il leur consacrait aussi à ses fils une sorte de tombeau littéraire, comme à sa fille, avec un ouvrage qui s'appelle « Mes fils ». Et il lui reste une fille, qui est Adèle, et qui, elle, sombre dans la folie lorsque, certainement, elle est déjà dans cette forme de dépression sévère alors qu'elle est sur les îles anglo-normandes. Elle s'entiche, on le connaît très bien grâce à un magnifique film qui est Adèle H de François Truffaut. Elle s'entiche d'un lieutenant qu'elle va suivre un peu partout dans le monde. Et puis finalement, elle va se retrouver dans une situation tragique à la Barbade. Elle est ramenée grâce à une femme extraordinaire qui va la convoyer depuis la Barbade à son père. On est en 1872. Et là, Victor Hugo consulte les aliénistes et on a d'autres choix apparemment que d'interner Adèle à Saint-Mandé dans un asile. Elle y demeurera jusqu'en 1915, hein, ce qui veut dire qu'elle a passé près de 43 ans dans un asile.
Alors, il y a aussi l'exil de Victor Hugo. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Et notamment donc à Jersey, Guernsey, et puis et il y a cette maison incroyable à Hauteville House.
Tout à fait. Alors, effectivement, Victor Hugo s'oppose très vite au choix que fait Napoléon III, enfin au choix que fait l'empereur de devenir donc ce fameux Napoléon III. Il l'avait un petit peu soutenu jusque-là. Il avait quelques sympathies pour lui qui disparaissent totalement lorsqu'il voit que Napoléon III prend le chemin d'un empire et donc d'un régime beaucoup plus dictatorial. Donc il décide de s'exiler. De toute façon, il n'a pas le choix. Il est poursuivi, hein, par la police impériale, et donc il va se réfugier dans les îles anglo-normandes où là il pense trouver la paix, mais évidemment il fait venir toute sa famille avec lui, et puis cet exil va durer beaucoup plus de temps qu'il ne l'avait prévu, puisqu'il faudra attendre la guerre de 1870, la défaite de l'empereur pour pouvoir revenir enfin en France. Ça veut dire 20 ans d'exil. 20 ans d'exil qui sont au départ assez... On essaie de faire en sorte que ce soit assez joyeux, on a beaucoup d'activités. Effectivement, on construit une maison une fois qu'on part à Guernesey, mais en réalité, l'entourage de Victor Hugo trouve ça extrêmement pénible, et peu à peu, eh bien, les gens vont le quitter pour retourner en France, sauf lui, hein, lui qui, évidemment, reste symboliquement et qui refuse de revenir en France, et refuse toute forme de conciliation avec l'Empire, et il reste donc dans les îles anglo-normandes jusqu'en 1870.
Alors, il y a aussi les femmes. Il y a sa femme, qui est Adèle Fouché, et Juliette Drouet, sa maîtresse officielle, qui a joué un rôle est très important pour Victor Hugo. Remarquez tout simplement que ces femmes, la femme officielle, la maîtresse officielle, ont passé leur vie à mettre au propre les manuscrits de Victor Hugo. Elles l'ont aidé, elles étaient pleines d'amour et d'empathie, de façon à ce que ce grand homme puisse vivre sa vie de créateur librement. Elles étaient là pour lui baliser le chemin.
Tout à fait. Victor Hugo sait très bien qu'il a une énorme dette par rapport à Adèle Fouché et à Juliette Drouet, pour la bonne et simple raison qu'effectivement, elles vont le soutenir, et chacune à leur manière. Elles sont complémentaires, en fait. Hein. Donc Adèle Fouché va remplir le rôle de parfaite hôtesse de maison. C'est elle qui reçoit, c'est elle qui va accueillir les gens, c'est elle qui va arrondir les angles, etc. Et puis Juliette est là pour un soutien plus sentimental, et puis peut-être aussi pour de temps en temps ramener Victor Hugo à la réalité, en les gratignant un petit peu, en se moquant un petit peu de lui quand elle trouve qu'il devient trop égocentrique. Elle n'hésite pas à lui dire que voilà, il faut peut-être qu'il fasse attention à ne pas être complètement perdu par les honneurs et à vraiment continuer l'écriture. C'est elle par exemple qui va lui dire reprends Les Misères. Les Misères, c'est le fameux roman qui va devenir Les Misérables lors de l'exil.
Ah, oui. Alors, il y a, on va parler de Charles Hugo, justement, qui a introduit la photographie à José pour, avec son père, donc en exil, et qui a même créé un atelier de photographie. Et cette photographie a été vraiment, l'apport de la photographie a été essentiel dans les dessins de Victor Hugo. Alors, l'apport de la photographie et des techniques nouvelles, les pochoirs, autant de moyens qui ont poussé son art et sa peinture vers des sommets de modernité. Toutes ces techniques l'ont aidé à transcender sa technique du dessin et de la peinture au départ classique, celle des dessinateurs et aquarellistes de son siècle, et à la porter vers des sommets de modernité. Et c'est ce qui nous éblouit, nous, lecteurs du XXIe siècle. On est épatés par la modernité, par le génie de ces dessins qui sont vraiment de facture XXIe siècle, pratiquement.
Alors je vous rejoins, on est non seulement épaté par les dessins, mais on est épaté aussi par les photographies. Et vous avez raison de souligner le trait, le lien qu'il y a entre ces photographies et ces dessins. C'est-à-dire que la famille Hugo est tout à fait capable de s'emparer de médias comme ça pour les transcender. Donc la photographie, c'est en effet son fils qui la rapporte d'un séjour en France. Il est enthousiaste, il arrive avec des appareils photographiques. Et Victor Hugo est tout aussi enthousiaste. Il comprend tout de suite l'intérêt qu'il y a à faire des photographies. Et les photographies ne sont pas classiques. Et c'est pour ça qu'on est heureux de les voir, parce que c'est un témoignage aussi pour nous, aujourd'hui, de la vie quotidienne de cette famille. C'est-à-dire qu'à une époque où les photographies étaient posées plutôt en studio, la famille Hugo, elle, se prend en photographie, et non seulement se prend en photographie, mais dans son quotidien, voire invente des petites scènes. Et c'est comme ça aussi que, par exemple, Victor Hugo va se mettre en scène sur son fameux rocher de proscrit. Donc voilà des photographies qui sont extrêmement originales. Et c'est la même chose pour le dessin. Victor Hugo, il observe, il a un talent bien entendu pour croquer déjà. Il fait des petits croquis sur ses messages, il fait des petits croquis quand il se promène dans ses carnets, etc. Et puis peu à peu, il va se rendre compte que si on a une tache de café, si on a renversé du café sur sa feuille, on peut en faire un dessin, on peut ajouter un trait de plume, etc. Et ça va donner ces superbes compositions qui défient le temps, comme vous le disiez. Elles sont tout à fait intemporelles et absolument magnifiques. Et on voit qu'elles sont portées sans doute par la même inspiration que lorsqu'il écrit des poèmes. Il y a vraiment un génie dans ses compositions.
Alors, c'est une incroyable collection de dessins qui révèle l'immense talent de Victor Hugo, qui peint à l'aide de gouache, d'encre, de café, d'eau renversée sur ses dessins, et voilà l'eau qui se met à flouter toutes les couleurs, et il y a une espèce de magie, presque de troisième dimension, avec cette eau qui a surnagé, qui a marié les contours et les couleurs. Il peint des vues apocalyptiques, des tempêtes halluciné, des châteaux fantastiques. Tout ça, c'est par la mer de Guernesey et de Jersey.
Tout à fait. Alors, effectivement, la période de Jersey et Guernesey est une période d'inspiration vraiment intense. Non seulement, on l'a rappelé, pour la poésie, pour les romans, mais aussi pour le dessin, tout simplement parce que, comme on le disait tout à l'heure, même si au début la famille essaie de s'occuper en jardinant, en se promenant, etc., il y a un moment donné où les activités sont quand même réduites sur ces deux îles, et surtout réduites par rapport à la vie que pouvait avoir Victor Hugo juste avant l'exil, où là, il était vraiment dans les mondanités, il recevait beaucoup, il allait aussi dans des salons, il avait des maîtresses. Donc là, son temps, il le retrouve, et c'est un temps donc de création intense, ces 20 années passées sur les îles anglo-normandes.
Et cette maison, Hauteville House, qu'il décore de façon ingénieuse, théâtrale, expressionniste, artistique, comme pour donner corps à l'atmosphère de son roman Notre-Dame de Paris. Victor Hugo, animé par la passion de faire exister son univers mental et de le communiquer aux autres, il transmet son siècle.
tout à fait. Alors, c'est une maison qui est vraiment à la fois dans la monstration et à la fois dans l'intimité. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que quand on arrive dans la rue, c'est plutôt un cube gris, on se dit « Oh, voilà, c'est peut-être pas extraordinaire ». Et puis quand on entre, on est absolument saisi parce que c'est comme une cathédrale. On va aller visiter un arrêt de chaussée plutôt sombre jusqu'au fameux look-out en haut de cette maison qui est une verrière par laquelle on aperçoit l'océan qui est baigné de lumière fréquemment. On voit vraiment, là, on voit les rochers, on voit l'océan, c'est absolument magnifique. Et cette construction donc de cathédrale va se retrouver aussi dans la décoration. Et ce qu'il faut dire, c'est que Victor Hugo, là aussi, a une imagination débordante et qu'il n'hésite pas à donner de sa propre personne parce que il va peindre des bois, il va éventuellement s'occuper d'objets qu'il a trouvés en faisant des brocantes, en courant les brocantes avec Juliette, donc des objets qu'il va s'approprier, qu'il va remodeler. Donc c'est une construction absolument extraordinaire qui lui a pris des années. Alors autant Juliette a été sa compagne dans cette construction à distance, hein, puisqu'elle ne résidait pas dans cette maison, elle avait une autre maison qui s'appelle d'ailleurs Fairy House, voilà, pas loin du tout, et où Victor Hugo va faire la même chose. Autant Adèle, elle a détesté cette construction qui a duré pendant des années.
Alors en 1853, il y a un épisode intéressant et captivant, c'est celui de Delphine de Girardin, une poétesse, qui initie les membres de la famille Hugo à la pratique des tables parlantes qui permettent de communiquer avec l'esprit des personnes décédées. Victor Hugo prend part à ces séances avec beaucoup d'intérêt, surtout lorsqu'il croit retrouver sa fille Léopoldine, et ces séances dureront jusqu'à la fin de l'exil à Jersey. Et ça donnera lieu à un livre qui est le livre des tables.
Tout à fait. Alors ça aussi, c'est ce qui m'a peut-être le plus intriguée dans les deux années que j'ai passées en compagnie de Victor Hugo. C'est vraiment ce qui m'a le plus intriguée, le plus décontenancée. Alors il y avait une forte mode effectivement aux tables tournantes, au spiritisme en France. Et il se trouve que la famille Hugo invitait des amis à venir les voir à Jersey et Guernesey, donc Delphine de Girardin, qui est la femme de Eugène de Girardin, qui est un patron de presse influent alors en France. Delphine de Girardin, elle-même écrivaine, elle-même artiste, vient leur rendre visite à Jersey et elle vient avec l'idée de faire tourner les tables. Alors Victor Hugo est plutôt réticent à ce genre de choses. Et puis finalement, ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'on trouve le bon guéridon, une fois que le guéridon tourne, eh bien le guéridon visiblement transmet la voix de Léopoldine et des propos de Léopoldine. Et à partir de ce moment-là, Victor Hugo va s'intéresser très fortement aux différentes discussions qu'on peut avoir avec les esprits. Donc ça va être des esprits extrêmement variés avec qui il va dialoguer, des esprits de personnages célèbres la plupart du temps qu'il interroge, comme Shakespeare par exemple, entre autres. Et Victor Hugo va demander à Adèle, sa fille, donc de consigner ses différents propos. Jusqu'à ce que ces séances de spiritisme touchent gravement un des participants, qui est le jeune Alix, on pense qu'il a dû être interné suite à un de ces épisodes, tellement ça l'avait impressionné. Et à ce moment-là, la famille Hugo va prendre ses distances avec les fameuses tables tournantes. Mais ça donnera en effet un livre. Voilà ce que Adèle a pu consigner, qui va s'appeler le livre des tables, qui a été imprimé pour la première fois, édité pour la première fois après la mort de Victor Hugo, sur sa volonté.
Alors, par rapport à son écriture, ses livres, il y a les Contemplations, poèmes, il y a Notre-Dame de Paris en 1831, il y a Les Misérables en 1862 et Les Travailleurs de la mer 1866, qui lui a été écrit à Hauteville House.
Tout à fait. Alors c'est très intéressant parce que cet ouvrage-là, c'est en quelque sorte Victor Hugo qui se met en scène lui-même comme travailleur et comme personnage désespéré, puisque le personnage de cet ouvrage, à la fin, renonce à tout ce qu'il aime et se suicide. Et donc c'est sans doute, de la part de Victor Hugo, un ouvrage très symbolique sur ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire cet exil interminable, mais qu'il fait pour que la France retrouve sa liberté. Et il est intéressant aussi parce que Victor Hugo a observé ce qui se passait autour de lui, donc c'est vraiment le récit aussi sur les pauvres gens qui habitent autour de lui, dans ces îles anglo-normandes qu'il a observées. Et c'est vraiment un récit absolument formidable. Il est moins connu, mais je le recommande parce qu'il est vraiment aussi beau que Les Misérables.
Alors justement, à propos des Misérables, dans une lettre à Lamartine, Victor Hugo explique « Oui, autant qu'il est permis à l'homme de vouloir, je veux détruire la fatalité humaine, je condamne l'esclavage, je chasse la misère, j'enseigne l'ignorance, je traite la maladie, j'éclaire la nuit, je hais la haine, voilà ce que je suis et voilà pourquoi j'ai fait les Misérables. Dans ma pensée, les Misérables ne sont autre chose qu'un livre » ayant la fraternité pour base et le progrès pour cime. C'est éblouissant.
C'est éblouissant et il faut que ce soit dit parce qu'effectivement, Les Misérables, c'est lu aussi voilà, comme un superbe roman, mais ça peut être lu comme un superbe roman populaire avec des, voilà, avec des intrigues, avec des ficelles, etc. Et le message est tout autre, c'est-à-dire que Victor Hugo espère bien que les lecteurs vont retrouver les grandes valeurs qu'il anime dans cet ouvrage et atteindre par là même le peuple auquel il s'adresse, oui, tout à fait. Et on retrouve dans cet ouvrage toutes les thématiques des lois pour lesquels il s'est battu, c'est-à-dire les lois contre le travail des enfants, par exemple. On pense évidemment à Cosette dans Les Misérables. Voilà ce qui a pu l'animer dans cet ouvrage, oui.
Alors, Agnès Sandras, par rapport à ce livre, que pouvez-vous nous dire par rapport à la place qu'il occupe actuellement parmi les écrivains? Que pense-t-on de lui? Quel livre retient-on? Par rapport au dessin, quel est le personnage qui s'incarne dans notre siècle?
Ouf, c'est une question très complexe. Alors, si on parle du 21e siècle, comme notre siècle, en effet, ce qui nous reste aujourd'hui, je crois, ce que connaît le public, ce sont ces romans, et notamment, pas forcément à travers les romans, c'est-à-dire que le public n'a pas forcément lu Les Misérables, mais il les connaît évidemment via des comédies musicales, via des dessins animés, on connaît Notre-Dame de la même manière. Voilà, donc on a en quelque sorte Victor Hugo voilà, sous toutes ses formes, sous la forme de chansons aussi, absolument superbe. Donc on connaît Victor Hugo, donc on connaît moins le personnage, me semble-t-il, quoique il a vraiment été un personnage qui a servi en quelque sorte au roman national de la Troisième République. Alors au XXe siècle, c'était un peu différent. Au XXe siècle, il y a eu des alternances, c'est-à-dire que tantôt on a encensé effectivement Victor Hugo comme un personnage consensuel, comme je vous le disais tout à l'heure, à la fois homme de lettres magnifique, homme politique de tous les combats. Tantôt, vous avez des gens qui ont critiqué très fortement, évidemment, son parcours politique, son engagement initial pour, par exemple, le royalisme, sa tentation de soutenir le futur Napoléon III. Et puis, on a pu critiquer aussi, parfois, son théâtre en le trouvant obsolète, ou bien même sa poésie.
Alors, il y a un livre qui, moi, m'a posé problème. C'est Le dernier jour d'un condamné en 1829. Moi, qui adore le livre d'Albert Camus, L'étranger, mais j'ai trouvé une très précise filiation, comme si l'étincelle qui a embrasé l'esprit d'Albert Camus dans L'étranger provenait du livre très, très, très en droit fil qui est de Victor Hugo, qui s'appelle « Le dernier jour d'un condamné ». Est-ce que, bien sûr, qu'il y a eu inspiration, bien sûr qu'Albert Camus a dû le lire, mais ça colle à le livre d'Albert Camus, « L'étranger », prix Nobel de littérature, semble très, très, très proche du livre de Victor Hugo, écrit en 1829. Est-ce que ça pose problème ou non?
Ça pose pas problème, c'est tout à fait logique. Le dernier jour d'un condamné va vraiment marquer des générations et des générations. Je le raconte dans le livre, même les bourreaux, les fameux bourreaux, la dynastie des Sansons au 19e siècle, a lu cet ouvrage et s'est posé des questions. Donc c'est vraiment un ouvrage fondamental par rapport à la peine de mort. C'est vraiment un ouvrage qui a marqué des générations et des générations. Donc oui, bien sûr que Albert Camus a une dette par rapport à Victor Hugo. C'est pas forcément une dette qu'il reconnaîtra parce que Albert Camus fait partie de ces générations que j'évoquais tout à l'heure qui sont assez critiques par rapport à Victor Hugo. Mais il n'empêche, ils ont lu Victor Hugo et ça les a profondément marqués, bien entendu.
Le droit d'auteur à protection du créateur, c'est une notion qui est tout à fait récente.
C'est une notion qui est récente et à la fois pas tant que ça, parce que, par exemple, justement, Victor Hugo est au centre de cette réflexion sur le droit d'auteur. Dans sa vieillesse, il va participer à une réflexion sur le droit d'auteur.
Et bien voilà, ça n'a pas suffi. Et voilà, c'était vraiment très agréable de parler avec vous de ce personnage extraordinaire, visionnaire, unique, un génie, Victor Hugo, à travers le livre que vous avez écrit et fait paraître aux éditions Perrin. Et le titre est Le Forçat des Lettres. Agnès Sandras, merci beaucoup et à une autre fois, avec plaisir.
Merci à vous, avec plaisir également.
Au revoir.
Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. We'll be right back.